pour l'avant-dernière fois de ces chouettes entretiens consacrés à Marc Chantreau. Interview réalisée par Margot Delpierre et Thomas Langlin. Retrouvez leur podcast sur leur site. Le site, c'est backstagelepodcast.com. Backstage, le podcast tout attaché, sans accent, sans virgule, sans rien. Marc Chantreau, dernière, ce sera jeudi 25 février. Et la semaine suivante, surprise, nous diffuserons un nouveau podcast en épisode. Nouveau podcast donc de Margot Delpierre et Thomas Langlin, que je remercie ici.
Sans forcément rentrer dans les détails, parce qu'on peut penser quand même qu'être musicien, c'est ne pas gagner très bien sa vie. Mmh. Quand on a votre chance de travailler avec des très grands artistes, c'est combien un cachet ?
Bah, c'est-à-dire, c'est... Il y avait un cachet qui était syndical. Moi, j'ai commencé à... Bon, quand je vous dis, j'avais 17 ans, à 2-3 mois près, bref. Il y avait un cachet. Bon, moi, j'étais tout jeuneau. J'ai pris comme tout le monde. Puis après, comme j'ai commencé à être sollicité... J'ai pris vite fait 50% soliste, 100%, puis après je suis passé au forfait puisque je lui expliquais que je faisais plusieurs parties. Donc c'était assez cher. Voilà. Mais ça n'avait rien à voir avec le tarif syndical. Ouais. Et je dois dire que, bon, j'ai pas honte de ça, je peux parler d'argent, je vais pas vous raconter tout, mais j'ai gagné, pour un salarié, pour un musicien, je crois que je suis un musicien qui a gagné certainement plus ma vie, quoi. Bah, d'autant que je faisais 3 séances par jour tous les jours. Parfois même entre midi et 1h30, j'en faisais une autre. Souvent, quand c'était avec des gens que je connaissais, je disais laisse tomber, j'arrivais, je jouais 10 minutes, je disais ça va, on va pas sortir le crayon. Et puis le soir, je faisais l'Olympia, ou des... donc j'étais pas plus fort qu'un autre, mais voilà. C'est... Mais j'ai pris de la monnaie, ça j'en ai pris. Mais j'ai payé des impôts.
Vous me parlez de l'Olympia, on a reçu dans Backstage Jean-Michel Boris, l'ancien directeur.
Merveilleux, merveilleux.
Vous le connaissez alors ?
Ah bah évidemment, je l'ai invité pour mon anniversaire il y a 2 ans, mes 70 ans. J'invite que des gens que j'aime beaucoup, quoi. Non, vraiment. C'est un homme délicieux, et puis c'est des gens, vous savez, on ne peut pas comparer cette époque avec aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autre chose. Puis bon, je ne vais pas dire que c'était mieux avant, parce que bon, comme disait Philippe Muret, c'était mieux toujours. Mais c'est une autre époque aujourd'hui, il n'y a plus de seigneurs. Si, il y a des seigneurs, mais pas SEI, SAI. Sauf qu'aujourd'hui, il faut toujours. Ah, tu ne peux pas me faire un prix, quoi, c'est ça. Et donc, moi, j'ai fermé le rideau, quoi. Aujourd'hui, si on m'appelle, soit je prends mon tarif, ou je viens gratuitement. Alors, quand c'est des amis, je viens gratuitement, mais quand c'est des gens que je ne connais pas, je ne viens pas. Ça vous semble peut-être vénal, je ne suis pas. J'estime que c'est comme ça. Puis, même vis-à-vis des gens avec qui j'ai pris un certain tarif, s'ils apprennent que je travaille pour une poignée de cerises, ils vont me dire, mais attends, ça fait 50 ans que tu m'as escroqué, là, ils auraient raison, d'ailleurs. Donc, je ne le fais pas. Voilà, par éthique.
C'est le côté industrie qui vous déplaît ?
Ah non, pas du tout, non, si vous voulez, à l'époque, il n'y avait pas de problème, le show business, il y avait Eddie Barclay, il y avait Norbert Saada, il y avait... Mais même, à l'époque, les maisons de disques, il y avait Warner, qui a soutenu pendant 10 ans, Michel Jonas, c'était des joueurs, quoi, les show business, quoi. Il y avait tous les gens, les Marouani, il y avait les Talar, il y avait tout ça, des gens-là, qui étaient des vrais producteurs, quoi, imaginez.
Mais c'est ce que m'expliquait Jean-Michel Boris, ouais. Il me disait que l'Olympia, c'était pas juste, à l'époque, de la location de salles, c'était des risques.
Bien sûr, mais bien sûr.
Quand on engageait un artiste qui n'était pas connu.
Bien sûr. D'ailleurs, je crois que Brel, il avait fait l'Olympia pendant quelques temps... Pour sauver, je crois, il avait été en difficulté. Je crois que c'est lui ou Beko, enfin.
Ou Beko, je crois, et Edith Piaf aussi.
Oui, Edith Piaf aussi, mais c'était une famille, quoi. Il n'y avait pas que le. C'était le show business, quoi, vraiment. Le show et le business. C'est bien.
Vous avez accompagné Michel Jonas à ses débuts ?
Oui, j'avais fait notamment Super Nana, entre autres, j'avais fait des... Bah, je l'ai connu, on allait en boum, il n'avait pas une thune, et moi je l'emmenais avec ma bagnole, vous voyez, c'est que... Parce que j'en avais déjà à l'époque, j'avais une Morgane. Mais bon, mais Michel, bon, je l'ai connu depuis toujours, quoi, voilà.
Vous avez conscience quand même d'avoir profité d'un âge d'or de la musique avec tous ces grands artistes ?
Bah, plaisantez, les 30 Glorieuses, c'était formidable, quoi, c'était... Enfin, moi, j'ai eu tout l'achat. En plus, il y a eu une évolution, puis, j'étais un homme normal, peut-être même un peu moins normal, vous voyez, il y a eu pilule, enfin bon, on va peut-être me traiter de tous les noms, mais c'était quand même, il y avait une vision de la vie. Puis...
Vous avez eu votre période hippie?
Ouais, je l'ai été, oui, mais les chaussures à talons. Je me souviens d'ailleurs, il y a Stéphane Grappelli, que j'ai connu, parce que j'ai fait des disques avec lui, mais pas en tant que jazzman, parce que moi, c'est une philosophie, le jazz, hein. Puis le jazz, c'est, on met la main dans sa poche, je peux pas acheter du pain, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Et en ce qui concerne donc Stéphane, Parfois, ils venaient participer à des séances d'enregistrement et ils me voyaient avec mes chaussures comme ça. Ils me disaient, mais moi, à Londres, j'ai les mêmes, mais ici, je peux pas les mettre, autrement, on va me traiter de tous les noms. On avait des chaussures à talons comme ça. Les pantalons, les bon, la moustache, les cheveux longs. Bah, si un jour vous avez une minute, vous allez sur Internet et vous taperez donc mon nom, Marc Chantereau, parce que je dis Chantereau, mais c'est Chantereau. Et je joue le vol du Bourdon en 1972 avec Raymond Lefebvre. Et
là, j'ai vu cette vidéo. Longs.
Marc Chantereau, pardon. Le vol du Bourdon. Coup de chapeau à l'orchestre Raymond Lefebvre.
Voilà, j'ai les cheveux longs et la moustache, on était tous pareils. Je sais pas comment les filles se sauvaient pas en nous voyant. On marquait peut-être aujourd'hui aussi, mais au moins,
ouais,
on
était
un peu plus
propre.
C'était la mode, voilà. Voilà.
Vous vous définissez comme un musicien de variété ?
Ah oui, moi je suis un musicien de variété, oui. Bon, je peux jouer dans un orchestre symphonique, j'étais au conservatoire. Mais ça m'intéresse pas parce que quand vous êtes dans un orchestre, surtout percussionniste, bon, quand on joue les timbales, ça va, mais enfin, c'est pam param, pim param, pam param. Bon, il faut compter les mesures, c'est pas comptable, musicien. Et quand on joue, c'est surtout le mec qui joue le triangle, il est 150, 151. Moi, j'ai des copains qui jouent à l'opéra, il avait écrit, on joue pas avant 2 heures. Bon, le mec, il sort, il va boire un café, il fait ce qu'il veut. C'est pas ma tasse de thé. Même, je préfère être un petit musicien comme j'étais de variété, mais au moins, j'ai existé. Voilà. Dans un orchestre, vous n'existez pas, hein. En plus de ça, il y a un chef d'orchestre qui bat la mesure. Mais enfin, faut savoir que le chef d'orchestre, ça existe depuis Lully, hein, parce que Lully, il a attrapé la gangrène en tapant sur le pied. Et si un jour vous regardez un orchestre, les Dissonances de Lyon, eh bien, je l'ai entendu dernièrement, il n'y a pas de chef d'orchestre. Il joue le Sacre du Printemps. J'ai jamais entendu jouer comme ça. Il n'y a pas de chef d'orchestre. Parce que sur une partition, tout est écrit. Alors, je veux bien à l'époque où c'était Beethoven, parce qu'il avait écrit la musique, hein, Mozart aussi. Mais un jour, j'ai entendu un chef d'orchestre dont je tairais le nom, qui avait joué ses créations, qui avait un nom très connu. Bah, heureusement qu'il y a eu Mozart et les autres avant. Je vais me faire des ennemis, là, mais je m'en fous.
Non, mais vous avez le droit de penser que c'est un métier qui se justifie pas, selon vous.
Bah, c'est que l'importance qu'on lui donne. Le seul chef d'orchestre pour qui j'avais de l'admiration, c'était Bernstein. C'est pas parce qu'il a fait West Side Story. Et puis quand il dirige, c'est un bonheur, parce que la musique, c'est un moyen d'expression. Je suis désolé, moi, quand je vois Karajan diriger, je n'aurais jamais joué avec ce monsieur, qui était un ancien nazi, en plus. J'aimais pas ça, quoi. La musique, ça te fait pas peur, quoi. La musique, c'est comme ça que je la conçois, quoi. Je peux pas faire de la musique avec quelqu'un que je déteste à côté de moi, quoi. Je sais que ça a été souvent le cas dans certains groupes. Mais là, il y avait un intérêt financier qui était prioritaire. Mais normalement, quand on fait de la musique, c'est
oui. Quoi pour vous, la musique?
La musique, heureusement que ça existait, parce que je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie, comme j'étais une espèce de fumiste. Mais je pense que je suis né pour avoir fait ce que j'ai fait, mais enfin. Ma vie a été un conte de fées, vraiment. Vous vous rendez compte, j'ai commencé la musique, j'avais 4 ans, moi. J'avais joué de l'accordéon. Après, je voulais être batteur, parce que quand j'allais au cirque, j'entendais le batteur. Mais à l'époque, pour apprendre la batterie, j'avais 8 ans, donc c'était 8 ans, 54-55. C'est comme si aujourd'hui, vous voulez apprendre l'araméen ou le sanskrit. Hein. Il ne va pas y avoir beaucoup de cours. Donc, ça n'existe pas. Et il y avait la percussion qui commençait à se développer. Et donc, j'ai fait de la percussion par accident. Mais je voulais être batteur, moi. Mais je suis très content d'avoir été percussionniste. En fait, je suis un percussionniste, je dis ça toujours, et ça énerve mes collègues percussionnistes. Je dis, on est des pianistes ratés, parce qu'on joue du xylophone avec 2 ou 4 baguettes, alors que le piano, il y a 10 notes. Donc là, ils se mettent à hurler, je dis, bon, on est des touristes, quoi, tout ça. Et puis, la percussion, c'est un batteur raté, parce qu'est-ce qu'on tape, on fait... Alors là, je me fais incendier. Si vous mettez ça, je vais recevoir des coups de téléphone, des menaces de mort. Mais je m'en fous, ils le savent. Voilà.
Les percussions, ça recouvre plein d'instruments.
Ah ben, la percussion, vous voyez, ça peut être... Ça va de tout à tout. Et mon rêve, je l'ai presque réalisé, c'est-à-dire de rentrer en studio sans rien. J'avais rien, et j'ai tapé sur tout ce qu'il y avait. Et ça me plaît.
C'était pour quel projet ?
Oh, c'était notamment, on avait fait Cash, c'est une musique de film, Jean-Michel Bernard avec la musique, et il y avait un autre percussionniste qui était avec moi, qui avait un matériel, évidemment, moi j'ai rien, parce que j'ai toujours des voitures qui avaient seulement 2 places, donc j'avais un petit sac. Alors si, je faisais livrer quand même du matériel, mais bon, j'ai tapé sur le pupitre, voilà, c'était, quand on entend Cash, on entend que ça, vous voyez, bon, ça m'a fait marrer.
Qu'est-ce que vous aimez d'autre dans les percussions ?
Dans les percussions, j'aime tous les instruments en percussion. C'est-à-dire que je joue des tumbas aussi, mais je joue pas comme un comme un Cubain, comme un Brésilien, parce que moi je suis né à Paris, donc j'ai jamais cherché à jouer comme, je jouais, c'est-à-dire le plus simplement possible, et puis essayer de faire tourner un peu ce qu'on appelle tourner, c'est-à-dire que ça, j'en parlerai un mot un peu prétentieux, ça swing, quoi, vous voyez, qu'on a envie de taper du pied, quoi. Parce que la musique, c'est un peu ça aussi, il y a des gens qui jouent, oui, c'est pas le tout de jouer des notes, il n'y a pas que le portefeuille ici, hein, il y a le cœur, quoi.
L'avantage de votre métier de musicien de studio?
C'est pas un métier, c'est une passion rémunérée.
De votre passion rémunérée?
C'est de moi, je revendique.
C'est que vous avez pu choisir les gens avec qui vous aviez envie de travailler, au bout d'un certain temps.
Au bout d'un certain temps, oui, c'est vrai. Bah, quand ça allait bien, puisqu'en plus de ça, moi je suis compositeur, enfin, compositeur qui était Stravinsky et Mozart, si je le suis, mais j'écrivais de la musique. Et notamment, j'ai fait beaucoup de musique d'illustration sonore, et puis j'avais créé avec deux copains, à l'époque disco, en 78, on a créé un groupe disco qui s'appelait Voyage. Pas Voyage, hein, Voyage. Et avec ça, évidemment, quand on l'a emmené en radio, évidemment, les gens ont dit, mais qu'est-ce que c'est, des musiciens de studio, des requins, ils n'intéressaient pas. Et on a eu la chance qu'un DJ qui était à Lizzy Matignon partait une semaine après à New York chez Régine. Il adorait le disque. Il part avec le disque, Didi sous le bras, il le donne à ses collègues. Et nous, on ne comprenait pas, on faisait de l'export. L'export, qu'est-ce qui se passe? Et un jour, on reçoit le Billboard et on était 20e à New York. Et après, on a été numéro 1 aux États-Unis. Si vous voulez, je vous fais voir le... Enfin, c'était vrai, enfin, bon, bref. Dans les discothèques, hein, on n'était pas des ventes. Et c'est vrai que ça a changé de ville. Un an après, on a été à nouveau numéro 1 mondial, là-bas. Enfin, c'est ce qu'on appelle mondial, parce que les États-Unis, c'est un peu... Voilà. Donc après, il y a des gens où je voulais pas... J'avais pas envie, j'y allais pas, quoi. J'y allais pas. Puis surtout, ça dépendait des gens, ils me plaisaient pas, quoi. Mais il y en a eu peu, hein, très peu. Hein.